de route.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine avec la présidentielle qui a encore bien occupé l'actualité, François Hollande aussi. Mais d'abord, les voitures de police en zone sensible vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage. C'est ce qu'on a appris cette semaine après l'agression au cocktail Molotov de policiers samedi dernier dans l'Essonne. Tandis que des uniformes vont être rendus résistants au feu. En effet, la bande qui a lancé des cocktails Molotov aux policiers prisonniers des voitures cherche véritablement à que ceux-ci ne sortent pas des véhicules pour qu'ils meurent brûlés. J'ai vu qu'on voulait vraiment nous tuer, a témoigné l'un des quatre policiers rescapés. Ils ont mis le feu au véhicule. J'ai vu qu'on voulait vraiment nous tuer. On ne voulait pas qu'on sorte du véhicule. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a parlé de sauvageons pour ceux qui ont fait ça. François Hollande a beaucoup fait parler de lui cette semaine. D'abord chipotant, hésitant à recevoir le président russe Vladimir Poutine, dont la réponse ne s'est pas fait attendre. Vladimir Poutine visitera Paris et François Hollande quand celui-ci se sentira à l'aise. Ce sont les mots du Kremlin qui veut parler des sujets qui fâchent, la Syrie, l'Ukraine. Et les sujets qui fâchent, François Hollande en a donné du grain à moudre à peu près tout le monde cette semaine avec ce livre de confidences, de confessions qui est sorti. Un président ne devrait pas dire ça. Alors tout le monde en a pris pour son grade. Hein. Les Verts, le Parti Socialiste qu'il reconnaît avoir songé à liquider, les footballeurs qui devraient se muscler le cerveau, les magistrats surtout, François Hollande affirmant que l'institution judiciaire est une institution de lâches, sidération des juges qui en grande pompe se sont réunis, ont dénoncé les propos du chef de l'État qui est censé être garant de l'institution judiciaire. C'est une humiliation, ça porte gravement atteinte à la justice, ont-ils dit. Du coup, François Hollande a dû rétropédaler, démenti, recevoir les juges. François Hollande qui avait aussi des déclarations un peu plus politiques, affirmant qu'en cas de deuxième tour de l'élection présidentielle au printemps prochain entre Marine Le Pen et un candidat de droite, Nicolas Sarkozy par exemple, il appellerait à voter pour Nicolas Sarkozy, le petit de Gaulle l'appelle-t-il. Nicolas Sarkozy qui était aux prises avec ses concurrents de la droite et du centre pour la primaire, c'était le premier débat jeudi soir, débat dont il ressort qu'une fois encore les deux hommes de tête sont Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Cette semaine, on apprenait aussi que le prix de l'essence va continuer sa hausse. Il a augmenté déjà la semaine dernière et ça va continuer car la Russie est d'accord pour baisser sa production de pétrole, ce qui va engendrer une remontée du prix du baril. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisi. Passez un très bon dimanche avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Et à 103.7, c'est la météo avant de retrouver le sport et Philippe Carnus. Sachez qu'aujourd'hui, le temps alternera passage nuageux, en tout cas dans la matinée, en début d'après-midi, passage nuageux et belles éclaircies. Température environ 10 à 11 degrés, on devra atteindre les 18 à 19 dans l'après-midi avec un soleil voilé.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Il fait beau, on est ravis d'être avec vous ce matin. Et tiens, comme il fait beau, ben on va prendre nos rollers au cours de cette émission du dimanche 16 octobre avec nos invités. On commence avec Auréline Gela, que je salue, responsable de la section rando. Bonjour Auréline, ça va ?
Bonjour, très bien, ouais, merci.
Vous n'êtes pas venue en roller, ça s'est fait dans le passé. Hein.
non, malgré que je passe souvent par là en roller, non, ouais. Je suis venue en voiture.
Ouais. C'est un temps idéal quand même pour la pratique de votre sport.
C'est nickel, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid.
Mm-hmm. Alors, bon, très brièvement, comment on en arrive ? Comment on en arrive à faire du roller ? Comment on se passionne pour ce qui est un véritable sport ?
Oh, bah, les sensations... Le côté enfance aussi, quand on est enfant on fait beaucoup de roller, on a envie de rechausser en devenant un peu plus grand, la volonté de faire du sport, faire du sport aussi doucement, sans forcer les articulations comme à la course par exemple, et puis voilà les sensations, la vitesse.
Ouais. Vous avez commencé à quel âge ?
Oh, j'ai commencé toute petite.
Ouais, 5 ans, 6 ans, comme
voilà,
ça.
Voilà, dès l'instant que j'ai pu avoir des rollers au pied, j'ai eu des rollers au pied. Puis après, j'ai fait une grosse pause à l'adolescence et j'ai repris.
Très bien. OK. Allez, et avec vous aussi, lui aussi n'est pas venu en roller, mais enfin, il habite un peu plus loin. C'est Laurent Humbert, le président de la section roller de Rambouillet. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Oui, approchez-vous un peu plus près
oui, bonjour,
du micro.
Bonjour
voilà.
À tous.
Ouais, ouais. Alors, vous, depuis quand cette passion pour le roller?
Passion, alors pareil, on suit tous un peu le même chemin et on le voit au niveau de nos adhérents aussi. On a tous chaussé vos rollers, je suis sûr que vous aussi.
Oui, c'est le cas. Mais moi, j'ai pas
voilà.
Fait, voilà, j'ai fait ça étant
après, effectivement, puis, bah, à l'adolescence, voilà. Même papa, j'ai rechaussé les rollers avec mes enfants, mais oui, bah, d'un voilà. Point de vue loisir, le dimanche, comme ça, pour un truc. Et puis à un moment donné, j'ai cherché, en venant m'installer dans la région, un sport où on peut se dépenser physiquement et plaisir, quoi, voilà. Et le roller, en fait, rejoint ces sensations. Et notamment, comme je suis un ancien skieur, on retrouve pas mal dans sensations de ski. C'est un sport de glisse, en fait, le roller.
Eh ben, ça, on va en parler, c'est bien. Parce qu'effectivement, on va mieux découvrir cette activité. On pouvait penser que c'est un sport qui s'apparente beaucoup aussi à la compétition cycliste. Pour certaines activités de votre sport, mais avec le ski, on pensait pas.
Le ski, il y a la partie sensation glisse. Avec le cyclisme, il y a la partie fractionnée, puisque de temps en temps, il faut avancer. La technique est spécifique, bien évidemment, en roller pour avancer, mais aussi il y a des zones de roulage qui permet au corps de récupérer. Mm-hmm. Donc on n'est pas tout le temps dans l'effort, et c'est aussi ce qui est plaisant, quoi.
Il y a de temps en temps des temps morts, quoi.
Oui.
C'est ça. Très bien. Alors, on aura un petit direct tout à l'heure vers 10h30 pour le trail de Manny Les Hameaux. Hein. On aura Nathalie Appert, une des responsables de ce trail, au téléphone, parce qu'il y a encore des épreuves de course à pied, même si maintenant ça va un peu se raréfier au niveau du calendrier. Il y a encore des épreuves de course à pied, la météo est belle, donc je pense que le spectacle sera beau du côté de Manny Les Hameaux. Donc, question, j'allais dire simple, on peut pratiquer donc ce sport sur Rambouillet depuis 2 ans, monsieur Humbert?
Oui, on a monté une association il y a 2 ans, axée sur la partie apprentissage, mais aussi pouvant déboucher sur des compétitions, puisqu'on participe à quelques compétitions. L'histoire, surtout, de se faire plaisir. On n'a pas de vocation à avoir des résultats nationaux encore, mais aussi, voilà, ça reste du loisir, mais dans l'objectif du dépassement de soi, en fait, voilà. Beaucoup de nos adhérents, enfin certains de nos adhérents qui arrivent pour faire du loisir, des balades, se prennent le jeu de la compétition.
Et pourtant, dans ma vieille carrière de journaliste, je me rappelle déjà avoir reçu dans le passé une section roller sur Rambouillet, c'est-à-dire qu'elle a disparu, et vous avez remonté ça après?
Alors, elle n'a pas totalement disparu, mais elle s'opère dans un cadre non sportif, en fait, et c'est ce qui nous a amené, nous, puisqu'on est issus de ce cadre-là, à monter une association fédérée à la Fédération française de roller sport pour aborder cet aspect sportif, quoi, en fait, et pouvoir accéder, le fait de cette affiliation, à des formations, à aussi des manifestations spécifiques organisées par les ligues départementales ou régionales.
Oui, alors la semaine dernière, vous avez fait une grande manifestation dans les rues de Rambouillet.
On a fait une opération porte ouverte. On en fait de temps en temps, 2-3 par année. L'objectif étant de pouvoir accueillir des personnes non adhérentes pour venir soit s'essayer au roller, soit se réhabituer au roller, hein, puisqu'on a tous il y a rarement de vrais débutants, en fait, mais ça arrive. Et puis on fait une petite rando sous forme de parcours en ligne. On essaye un petit peu d'égayer la partie simple rando, parcourir les rues ou les alentours de Rambouillet. En mettant un petit peu d'animation. Mais Auréline peut peut-être en parler.
Auréline va en parler, mais donc ça s'est passé comment? Le public a été très réceptif?
Alors oui, le public était... ils ont vraiment adhéré au concept. J'avais fait un parcours à énigmes dans Rambouillet, donc en fait, à partir des éléments architecturaux et de la culture de Rambouillet... j'avais fait des petites balises où en fait chacun allait d'un point à un autre en trouvant une énigme. Et donc on arrivait à la lanterne, on arrivait à l'hôpital de Rambouillet,
Ça monte un peu, hein, c'est pas tout plat.
Je fais des difficultés. On arrive à l'Institut des langues, on découvre un petit peu l'architecture spécifique de Rambouillet.
Oui, c'est aussi.
Et du coup, ça a plu aussi bien aux enfants qu'aux parents. Mmh. Et après, en deuxième partie, j'avais fait une chasse au trésor.
Ah, bien.
Donc là, c'était plus axé pour les enfants où, en fait, ils devaient trouver des petites énigmes sur les animaux et après, trouver pareil les petites balises qui emmenaient à une autre à chaque fois. Et voilà, ça a plu à tout le monde.
Alors, Laurent, parle bien en face du micro surtout. Donc, la tranche d'âge représentée au sein de votre club ? À l'heure actuelle, là ?
À l'heure actuelle.
Vous êtes combien déjà ?
Alors, on est 43 adhérents à l'heure où on se parle. Oui. Il y a 8. On a ouvert une section enfant, un cours enfant cette année. Mm-hmm. On a 8 enfants qui sont inscrits, donc qui ont de 6 à 12 ans en fait.
Ah, bien.
Et puis, sur la partie adulte. La moyenne d'âge, j'ai pas révisé mes leçons, mais je dirais que c'est dans la trentaine d'années, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok. Autant de filles et de gars.
C'est la parité, cette année, oui, c'est peut-être même plus de filles que de gars cette année, oui.
Bien. Et pour beaucoup, donc, on parlait justement du début de votre activité. Pour beaucoup, c'est un sport qu'il débute ou c'est un sport de reconversion.
Alors,
il y a un peu des deux.
Il y a les deux, effectivement. Allez, là je vais utiliser mon joker 50-50. Effectivement, pour 50% d'entre eux, c'est un sport de reconversion parce que ils peuvent plus faire leur sport de prédilection qu'ils faisaient avant pour X raisons. Et pour d'autres, effectivement, c'est plus une remise à l'étrier, une reprise à l'étrier du roller plutôt que de le voir comme un sport. Mais ben voilà, souvent ça plaît parce qu'en plus du roller, on propose aussi des séances de PPG, donc de préparation physique générale.
Ça
se passe sans les rollers.
Ça me paraît indispensable, hein, de toute façon.
Voilà, ça permet effectivement de conserver une condition physique et puis surtout de compenser. Parce que lorsqu'on fait un sport, on développe toujours certains mouvements, certains muscles, certaines attitudes et au détriment des autres. Les séances de PPG, où on alterne les différents exercices, permettent de compenser tout ça, quoi. Et de se maintenir en forme, parce que là, il fait beau aujourd'hui, mais je voudrais que la saison pour le roller se termine, parce que quand il fait humide, pas beau, voilà, on a du mal à rouler, et donc faut quand même se maintenir en forme.
Alors, c'est un conseil qu'il faut donner, vous parliez du ski tout à l'heure, c'est très bien, parce que c'est un conseil qu'on donne souvent en disant, attention, vous lancez pas comme ça sur les pistes, faites une petite préparation physique avant, surtout quand on est moins habitué à faire du sport. C'est pareil pour le roller, ne prenez pas vos rollers comme ça, partez pas faire aller 5 km, préparez-vous avant.
C'est pareil pour tous les sports, je dirais, mais effectivement, le roller, comme le ski, comme le vélo, on peut pratiquer en loisir, faire le tour du pâté de maison, c'est bien. Oui. Si on veut faire le tour du quartier, ça commence à être un peu plus compliqué. Ça monte, ça descend, vous le disiez tout à l'heure, pareil, il faut une certaine technique, une certaine condition physique. Et pour conserver le plaisir, il faut effectivement une certaine condition physique, oui.
Alors, donc, les pratiquants et pratiquantes, vous avez dit, hein, un peu plus de filles que de garçons, ils viennent d'où ? Ils viennent essentiellement de Rambouillet ou ça va beaucoup plus loin ? Parce que des clubs de roller, il n'y en a pas énormément dans la région. Il faut aller sur Broyer, là c'est déjà une autre optique.
Jusqu'à 20 km, je dirais, dans un rayon de 20
à
30
km. C'est bien. Hein, ça...
On a des Pernons qui viennent.
Oui, des Pernons, ouais, c'est bien. L'Essonne, tout ça, limitrophe, tout ça.
Oui.
Oui, Pernon, Ably, oui, voilà, il y a les quelques villages aux alentours. Ouais. Après, il y a quelques exceptions, je dirais, qui ont fermé la règle. Par exemple, des parents qui ont inscrit leur fille au cours enfant et qui viennent d'assez loin, un peu au-dessous d'Oudan, là, je ne sais plus le bled. Et puis d'autres qui sont proches région parisienne, mais qui sont inscrits au club pour participer avec nous à certaines compétitions. Et ils font néanmoins pas forcément partie d'un club près de chez eux, quoi.
Donc, si on veut venir vous rejoindre, c'est pas trop tard encore. Ils peuvent vous contacter par mail, par téléphone.
Voilà. Ils peuvent venir aussi au rendez-vous le mercredi à 20h au parking de Carrefour à côté de la station service.
D'accord, donc on va rappeler, il y a un rendez-vous tous les mercredis pour les quoi ? Pour les rollerman, comment on appelle ça ?
Voilà, les rollerman.
Ou rollerwoman.
Voilà.
D'accord, ok. Donc tous les mercredis devant le parking Carrefour à la pompe à essence, là vous.
Voilà, juste vous en face, entre Darty, Zara et la station service.
Alors justement, on en parlait avec Laurent, quelle que soit la météo ?
Alors sauf quand il pleut.
Ouais,
il pleut, on a un petit préau où on arrive à faire les cours débutants, mais sinon la rando est annulée. Oui, quand il pleut, c'est un peu trop dangereux, ça glisse. C'est sous le préau de l'école Foch. rue du Buc, à Rambouillet.
D'accord. Donc ça, c'est chaque mercredi, mais le week-end aussi, vous pouvez vous regrouper alors.
Oui, alors le week-end, on fait des randos un peu plus longues sur des distances, autour de Rambouillet, on va vers Offargis, on va vers Ablis, on arrive à faire entre 20, 30, 40
kilomètres. Ah, quand même.
Ouais. Voilà.
Voire et même qui choisit les randos? C'est vous alors.
C'est moi.
Qui choisissez d'abord le lieu des randos, les routes et puis les voilà.
Voilà, on fait les circuits et
le kilomètre.
Après, souvent, j'improvise quand même en fonction des personnes qui sont là. Je vois le groupe et en fonction du groupe, on avise un petit peu si on va faire plutôt 15, 20 kilomètres ou si on va plus partir sur du 40, 50.
Oui, parce que la grosse difficulté, c'est ça, quoi. Je veux dire qu'on doit avoir des états de forme un peu disparates, quoi. Voilà.
Après, je préviens, j'envoie toujours un petit SMS ou un petit mail, et on a un agenda sur le site où je précise sortie tout niveau, sortie confirmée, parce que c'est vrai que les confirmés ont envie de rouler, et peut-être pas forcément faire plus de kilomètres, mais on les fait beaucoup plus vite, quoi.
Et c'est vous qui maîtrisez un peu la troupe, le groupe dans la sortie, parce que certains, comme vous l'avez dit, vont peut-être vouloir visser un peu plus en termes de sport, d'autres qui n'ont pas le potentiel pour suivre, il faut quand même que tout le monde rentre ensemble.
C'est ça. Après, il y a une tête de groupe. Mm-hmm. Généralement, on évite de dépasser. Après, de temps en temps, sur certains tronçons, quand c'est des routes qui sont peu fréquentées, on fait des petits lâchers. Et puis, ceux qui veulent avancer plus vite, ils avancent plus vite. Et puis on s'attend au croisement, quoi.
Mm-hmm. Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation, donc, Laurent, si certains seraient intéressés par venir vous rejoindre?
Alors, l'adhésion pour les adultes est à 55 euros pour l'année, oui, avec une licence fédérale à 38 euros qui vient en complément.
Donc ça veut dire qu'on peut faire de la compétition si on prend cette licence fédérale?
Voilà, tout à fait. Oui. Il y a deux intérêts. Il y a la compétition et puis il y a une assurance qui est en fait 24-7, sachant que les adhérents sans licence sont assurés bien évidemment dans le cadre des activités du club. En revanche, si je fais du roller pour mon loisir hors club le dimanche, et je pense que quel que soit le sport d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais on n'est pas assuré.
Ah bon.
On n'est pas assuré parce que général, une assurance responsabilité civile, on est assuré pour les autres, mais pas pour soi. Mm-hmm. Une individuelle accident, qui est déjà une clause un peu particulière, on n'est pas forcément à assurer pour des pratiques sportives. Donc on est écossais avec l'assureur. Donc si on veut pratiquer un sport pour soi, même le week-end, d'une manière un petit peu plus intensive, vaut mieux avoir une licence fédérale, quel que soit le sport. Là. Mmh. C'est pas forcément que le roller qui est dans ce cas-là. Hein.
Ouais. Est-ce qu'on peut considérer votre sport comme un sport à risque? Parce qu'il peut y avoir des chutes, on peut se blesser, on peut se faire mal.
Absolument.
Et on peut se casser quelque chose.
Alors, chez les assureurs, on est dans le médium, en fait. Hein, puisque forcément, les assureurs gèrent les risques. Il y a plus risqué. Si je fais du parachute, forcément, je suis dans le top des risques côté assureur. Là, le roller, on est dans le médium.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc, après, on prend toutes les protections. Casque est obligatoire.
Alors, c'est ce que j'allais
dire. Les
protections
conseillées, quoi.
Oui, bien sûr. L'équipement, donc, on va tout à l'heure en reparler. Il y a, j'allais dire, un profil type du parfait rollerman ou de la parfaite rollerwoman.
Non, très varié.
Je veux dire, on peut être petit, petite, frêle, grand, assez fort. Il y a de la place pour tout le monde dans cette discipline.
Tout le monde. Mmh. Justement, si on est un petit peu gros, c'est justement.
C'est un bon moyen pour perdre du poids.
Voilà, on n'a pas toute cette force en fait. On roule donc. Donc ça.
Ouais. Alors comment se prépare justement une séance et puis un entraînement? Parce que justement, on en parle, on veut perdre un peu de poids, on veut faire cette activité donc régulière. Comment on se prépare? On fait du fractionné, parce que c'est important, ça c'est comme prendre son vélo tout de suite, on va pas aller faire 40 km, on va rentrer complètement rincé, cuit. C'est pareil pour le roller, quoi. Je suppose qu'il y a une préparation qui se fait.
Il y a une préparation qui se fait en
puissance.
Au début, on va apprendre à freiner, on va apprendre à maîtriser sa trajectoire, à passer des obstacles, à monter, descendre des trottoirs, à éviter des passants.
Oui, en plus, oui.
Et puis, au fur et à mesure, on va affiner son patinage pour être sur les bons quarts. Donc, c'est-à-dire d'avoir vraiment les roues droites ou justement d'incliner les patins pour bien tourner. On va optimiser le patinage pour économiser ses forces.
Oui.
Parce que pour patiner vraiment le plus longtemps possible, pour rouler le plus longtemps possible, justement pour s'économiser. Et ensuite, on va travailler aussi le cardio.
Oui, oui, oui.
On va travailler les muscles et puis au fur et à mesure, bah, on va prendre de plus en plus de plaisir et on va pouvoir avancer de plus en plus vite et de plus en plus loin.
Donc ça s'apprend dans les sorties uniquement
dans les cours, en fait, voilà. On a des cours débutants pour justement maîtriser le roller et après on a des cours confirmés où justement on va vraiment peaufiner le patinage et optimiser vraiment le patinage.
Et ça, ces cours, c'est quand? C'est le mercredi?
Ça, c'est le mardi.
Ah, c'est le mardi. D'accord. Voilà. Donc il y a des grandes sorties, mais en plus il y a d'autres.
Voilà. En fait, on propose donc.
Il faut tout dire. Hein.
Le mardi, on propose un cours confirmé. Donc là, vraiment dans l'objectif de peaufiner et d'affiner vraiment le patinage pour arriver à un patinage très précis. Donc là, c'est Martial en fait qui le fait à 20h sur le parking des bus de Basquan, direction Gazeran. Et le mardi, du coup, il y a le cours débutant en parallèle de la rando. Et le jeudi, on a le cours de PPG.
D'accord. Donc là, on apprend à maîtriser ses rollers.
Voilà, mais vraiment dans la finesse.
C'est ça. Voilà. On part pas faire des rando, tout
ça
et tout.
On tourne sur le parking et on pour bien maîtriser les virages et la technique.
Et Laurent Bert, vous donnez aussi tes cours, hein, je crois. Hein.
Oui, j'anime moi le cours débutant débrouillé du mercredi. Alors on a un rendez-vous unique. Hein, je sais pas si c'est très clair dans l'esprit des gens. En fait, on a un rendez-vous unique le mercredi soir pour un cours technique que j'anime où là on apprend effectivement à maîtriser ses rollers. On roule sur un espace relativement restreint, mais l'objectif étant d'acquérir des techniques pour se rassurer, pour rassurer les patineurs qui n'auraient pas peur. Il arrive une zone pavée, il y a un obstacle, il y a eu des travaux, qu'est-ce que je fais? Voilà. Monter un trottoir, pareil, il y a toutes les techniques autour de ça, s'arrêter bien évidemment, tourner, etc. Donc là, c'est le mercredi soir, c'est le cours que j'anime, et en parallèle, Auréline part avec d'autres adhérents qui veulent qu'on en marre de la technique, des râleries de Laurent qui leur dit de serrer les genoux, les patins droits, etc. Et qui veulent profiter un petit peu, prendre plaisir à rouler en roller. Et à ce moment-là, Auréline les emmène en randonnée autour de Rambouillet. En général, comme c'est le soir, on reste dans la périphérie de l'agglomération. Mais ça permet surtout aux adhérents de pas faire que des cours techniques ou que de la rando, mais de pouvoir alterner aux mêmes horaires. Quoi.
Donc on va être très clair, il y a des rendez-vous le mardi, le mercredi, et après donc possibilité de faire de la rando le week-end. Hein.
Et le jeudi, la PPG.
Et le jeudi, c'est quoi la PPG?
C'est la préparation physique générale.
D'accord, ok, c'est ça, non, c'est pour le grand public.
C'est une sorte de fitness, musculation.
Oui, très bien. Donc mardi, mercredi, jeudi, et puis donc le week-end.
Et les week-ends, voilà.
Donc il y en a pour tout le monde, quoi.
Voilà.
D'accord, c'est très bien. Allez, la pub, la musique, et ensuite on va repartir sur nos rollers. On y va.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Carried away by a moonlight shadow, he passed on worried and warning. Carried away by a moonlight. le sport dans votre région avec RVE.
Oui, et il est 10h27, je voudrais simplement vous dire que cette émission, vous la retrouverez comme toutes celles hein, depuis le début de saison dans notre rubrique podcast, et ce, probablement dès aujourd'hui ou dès demain, avec de belles photos aussi hein, de tous nos invités. Voilà. Allez, on va du côté, je l'ai dit, de Magny-les-Hameaux, rejoindre Nathalie Appert. Nathalie, bonjour, je pense que la fête est belle à Magny ce matin.
En fait,
pas Nathalie Appert, donc voilà. Ouais, bon, on va continuer, on va nous faire signe au téléphone quand ça sera prêt. Est-ce que Nathalie m'entend? Non, bon, alors on va voir ça du côté de la technique. On va repartir donc sur nos rollers. On parlait des équipements. Comment ça se passe donc pour un équipement? C'est indispensable pour la pratique du sport, hein, sur votre sport, hein, c'est indispensable.
Oui, alors forcément, il faut des rollers. On exige en termes de protection un casque.
Oui.
Donc, alors, il y en a spécifique au roller, mais ce qui est le plus adapté en fait, c'est aussi un casque de vélo, tout simplement, de protection vélo. Mm-hmm. Et les autres protections auxquelles on pense, poignets, genoux, coudières, alors sont conseillées. Pour les poignets, fortement consignés, le reste est plutôt accessoire, on va dire.
Ça, c'est une obligation. Si on se présente à vos sorties sans ces équipements-là, on peut être refusé.
Oui.
Et en rando, une tenue fluo ou un gilet
Oui, c'est important parce que vous parliez justement des quelques sorties que vous faites éventuellement le mercredi. Faut faire attention, quoi. Faut être fluo, voilà. Oui, faut être visible sur la route.
En journée, je demande au moins une tenue fluo. Et quand les rendez-vous sont à 20h, il commence à faire nuit. Donc on prend la lampe frontale, une blanche pour le devant, une rouge pour l'arrière et une tenue réfléchissante. Donc l'idéal, c'est le gilet jaune.
Bon, on va refaire un petit essai. Est-ce que Nathalie Appert est prête du côté de Magny-les-Hameaux? Nathalie, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, là, il va falloir solutionner le problème parce qu'on n'arrive pas à l'avoir. On est dans le petit studio. Pourtant, les liaisons téléphoniques doivent pouvoir marcher. Donc, écoutez, on voit ça du côté de la technique. Et cette fois-ci, on nous fait signe quand tout marche. Hein, parce qu'apparemment, on n'arrive pas à voir Magny-les-Hameaux. On repart donc sur nos rollers. Ça coûte combien, un équipement?
Un casque, ça va d'une dizaine d'euros à 200-300 euros. Après, ça dépend de ce qu'on veut. Enfin, un petit casque de vélo classique acheté dans un magasin de sport suffit. Après, les rollers, c'est pareil. Pour bien s'équiper, il faut compter d'occasion 150 euros.
Et ça, justement, on le garde plusieurs années, ces rollers, ou alors on les change tous les ans? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intriguant, c'est les roulettes. Il y en a qui en ont 2, qui en ont 4, qui en ont 6, qui en ont 8. C'est quoi la différence? C'est quoi la particularité?
Alors, il y a les tailles de roues déjà.
Oui.
Ça y fait beaucoup. Plus on va faire de la distance et de la vitesse, plus elles seront grosses.
D'accord.
Donc, moi, en rando, généralement, on a du diamètre entre 100 et 110. Et en compétition, pareil. Et là, depuis quelques années, on voit apparaître seulement 3 roues par patin, mais en diamètre 125.
D'accord.
Donc là, c'est des roues qui coûtent beaucoup plus cher.
Oui.
Après, en termes d'usure, ça dépend du patinage. Généralement, tous les ans, tous les deux ans, on change les roues. Il y a aussi les roulements, la qualité des roulements qui compte.
Ça doit s'user souvent, non?
Ça dépend comment. Si on les entretient, si on les lave, si on roule. Quand c'est mouillé, les roulements ont tendance à s'abîmer beaucoup plus vite. Pareil, quand on roule sur du sable, voilà, ça salit beaucoup plus vite. Donc, pareil, ça dépend de l'entretien qu'on y fait.
Ça a beaucoup changé quand même, le matériel. Il a énormément évolué, comme dans tous les sports.
Alors là, on va parler à l'ancien, Laurent.
Ouais,
Laurent. Moi, quand j'ai commencé, j'avais les patins en ferraille, avec les roulements en ferraille et l'anneau en cuir. Bon, effectivement, c'est un petit peu changé depuis. Merci, Aurélie.
Comme le ski, voilà.
Mais c'est ce que j'allais dire. Dans tous les sports techniques, effectivement, tous les sports techniques bénéficient d'avancées, etc., des différentes technologies. Effectivement, aujourd'hui, il y a des roulements, par exemple, on parlait de la qualité des roulements, il y a la qualité de la matière, bien évidemment, mais il y a aussi des roulements en céramique. Les billes sont en céramique pour éviter.
Les billes en céramique.
Pour gagner en termes de frottement, en termes d'usure aussi, etc. Alors forcément, c'est pas le même prix. Enfin, on trouve de tout à tous les prix.
D'accord, ok. Mais quand on veut faire de la compétition ou même du roller un peu plus poussé sur le plan loisir, faut mettre le prix, quoi.
En général, ça vient assez vite. Les gens qu'on voit passer faire du roller acquiert une première paire de patins, alors il y a un bon site d'annonce pour des systèmes d'occasion qui marche très bien pour ça, parce que ça évite de dépenser trop pour voir si vraiment ça répond aux besoins de roller. Et puis très rapidement, les gens viennent acheter des patins un petit peu mieux finis, un petit peu plus rigides, parce que la rigidité du patin aussi, ça compte. Pour éviter de perdre de l'énergie dans la. Voilà, un peu comme en vélo en fait d'ailleurs. On en revient avec plus le cadre du vélo rigide, mieux c'est pour le déroulé. Et en roller, c'est un peu pareil. Voilà. Il y a la platine,
on peut
etc.
Avoir deux, trois paires par an, c'est même recommandable en fonction de la météo, en fonction.
Alors, moi-même, j'en ai plusieurs paires déjà parce que je suis conservateur, j'aime pas jeter.
Ouais, c'est bien.
Ça, c'est pas bien de jeter. Voilà. Mais surtout, effectivement, ça évite parce qu'on parlait de rouler sur le mouillé, etc., ou différentes pratiques. Quand j'anime des cours de roller, j'ai une paire de roller qui est plutôt une paire de roller balade, mais que j'ai utilisé moi-même il y a une dizaine d'années. Donc, c'est des patins qui ont une dizaine d'années. Lorsqu'on fait des rondos longues, des fois on fait des raids, on en parlera tout à l'heure, sur plusieurs jours, on fait plusieurs centaines de kilomètres. Mm-hmm. Là, c'est une autre paire de patins avec un chausson un peu plus léger, etc., avec d'autres platines. Et lorsqu'on fait des courses, des compétitions, là, c'est encore un autre type de patin. Enfin, voilà, à chaque type de pratique, il y a son patin. Et pour les mordus, comme on l'est, et Auréline, je crois que tu collectionnes aussi les paires de patins, il y a la réponse technique appropriée.
Alors, il y a peut-être aussi un petit côté fétichiste aussi à collectionner les paires de patins, non?
Oui, enfin, il faut surtout négocier aussi la place dans le garage, quoi.
Ouais,
aussi
c'est
un autre.
Et puis,
mais c'est moins.
Il y a les couleurs aussi, je suppose qu'on doit en voir de toutes sortes. Maintenant, c'est comme les casques pour les skieurs, c'est comme les cadres de vélo, quoi. C'est pareil, on peut se faire plaisir là-dessus.
Pas plus que ça. Plus tout ce qui est quad. Alors tout ce qui est quad et tout ce qui est roller de slalom, on peut acheter justement. On va fabriquer sa paire pour avoir vraiment la chaussure qu'on souhaite. Après en vitesse un petit peu, mais c'est pas non plus, c'est pas trop des éléments non plus de décoration pousser à l'extrême.
Alors au total tout ça, ça coûte combien pour un pratiquant ou une pratiquante, parce que ça vient se rajouter à la licence. Tout ça, tout cet équipement là, ça coûte combien?
Après, c'est vraiment en fonction de combien on veut dépenser. Moi, par exemple, j'ai trois paires de rollers. J'ai une paire de slalom que trouvée sur le Bon Coin, toute neuve, que j'ai payée 50 euros, qui valent 170. Ma paire de rando, je l'ai payée 130 sur le Bon Coin aussi, et elle valent à peu près 300-350 euros neuve. Et j'ai une paire de patins en chaussons bas pour la compétition, pour la vitesse. J'ai dû investir 90-100 euros dedans à peu près, parce que j'ai fait le montage moi-même.
Oui.
Et ça doit valoir à peu près dans les 300-350 euros.
Oui, d'accord. Ça, on est tranquille pour un petit bout de temps, alors toute la saison après.
Hein. Ouais.
Ouais. Alors justement, c'est hyper important, même pour l'équipement, ça a énormément changé aussi.
Voilà, ça évolue. Et après, c'est vrai que oui, entre les premiers patins et même les premiers patins que j'avais, ça change, ça a beaucoup évolué. Avant, c'est vrai que j'achetais dans un magasin de sport tout public les patins. Aujourd'hui, il y a des magasins spécialisés et on les achète là-dedans et on achète un tout petit peu plus cher, mais finalement on a vraiment quelque chose où on peut tout changer, où tout est adaptable. On peut changer la platine, on peut changer les roues, les roulements, une petite boucle quand ça casse. Voilà, c'est vraiment des patins haut de gamme et qui répondent aux besoins, quoi.
Et dans tous les commerces de sport, hein, on peut le joindre, parce que c'est vrai que quand on va les commerces de sport, on voit quand même qu'il y a de la place pour le rayon.
Il y en a un petit peu. Après, c'est pas des super patins et c'est pas des patins que je vais conseiller pour n'importe quel adhérent. Je vais plus les envoyer dans des magasins spécialisés où ils vont vraiment trouver pour une vingtaine, trentaine d'euros plus cher. Une entrée de gamme.
Ça, c'est l'étape 2, ça, je dirais, parce qu'effectivement, enfin, j'entends aussi dans votre question, j'ai rien, je veux faire du roller, combien ça va me coûter? Je dirais que pour une cinquantaine d'euros, en fait, on peut s'équiper, soit avec des patins, on va dire bas de gamme, dans un magasin tout neuf, si on a peur d'acheter l'occasion, ou on aura un petit peu mieux en occasion, c'est ce que disait Auréline, mais en cinquantaine d'euros, on s'équipe complètement, y compris le casque et les protections. Pour être prêt à pratiquer le roller, quoi.
Pour débuter, quoi.
Pour débuter, oui.
Très bien. Alors, donc, il y a le côté loisir chez vous, et puis vous comptez quand même aller entre nous, aller un peu plus loin, maintenant, vouloir faire la compétition. ça c'est une autre dimension. Donc Caroline, on se rappelle nous avoir eu très longtemps Caroline Lagrée qui était championne de France et même championne du monde je crois de sur les rollers, être venue à notre micro. C'est un véritable sport qui va être sport olympique, hein, et là on rentre vraiment dans une autre dimension.
Oui, tout à fait.
Oui.
Donc bah après, nous on essaye de faire quelques compétitions dans l'année sous différents formats. Donc le plus fréquent c'est les 6 heures. Donc en fait pendant 6 heures on va tourner sur un circuit en équipe, entre une équipe de 5 ou à 2 et en solo.
Oui.
Et l'objectif c'est de faire le plus de tours possible. Et il y a aussi des compétitions qui font 12 heures, il y a des 24 heures comme les 24 heures du Mans.
Oui. On était en direct, hein.
Oui, c'est il y a deux ans. Hein.
J'étais rentré du Brésil, hop, on vous a.
Voilà, entre deux tours.
On a fait une émission où vous étiez en direct entre deux tours
des
24 heures du Mans. Si on fait de la compétition, on est obligé de se spécialiser?
Pas du tout.
Parce que c'est pas comme en course à pied où on peut faire un marathon ou un semi-marathon ou un 10 km, c'est pas tout à fait pareil, quoi.
Franchement, après tout dépend dans quel cadre on le fait. On peut y aller vraiment pour le plaisir et sans objectif de faire un podium. Voilà, on va se donner à fond, mais c'est vraiment accessible à tous. Aux 24 heures du Mans, il y a aussi des débutants, il y a des personnes qui savent peine freiner.
Oui. C'est tout l'intérêt de ce type de. On parle de 6 heures, des 24 heures du Mans. Il y a deux types de compétitions, il faut bien voir ça. Il y a des compétitions officielles de la fédération qui sont organisées par la fédération et qui permettent de désigner et d'élire un champion de France, championne de France dans la catégorie dite. Et puis il y a des compétitions, alors là par contre il faut faire le Tour de France, hein, si on veut faire le parcours, ça se passe à Rennes, Strasbourg, Nice, etc., Lyon, nous il y a quelques personnes d'une manière individuelle qui le font, du club. Maintenant nous ce qu'on privilégie c'est la proximité des 6 heures pour éviter de traverser toute la France tous les week-ends, et puis aussi la partie loisirs, les 6 heures dont on parle, les 24 heures. Ça reste des compétitions, l'objectif étant de se dépasser. Maintenant, c'est accessible, tant au niveau technique, de performance, mais aussi au niveau financier, puisque faire la compétition, ça coûte aussi des sous.
Ouais. Je voulais m'excuser auprès des auditeurs, on ne peut pas voir le travail aujourd'hui. On est dans le petit studio, apparemment la liaison téléphonique ne marche pas. C'est pas très pro, on s'en excuse, hein, et on n'aura pas donc Nathalie Appert aujourd'hui pour Mani et Lamo, mais c'est promis juré, on donnera le résultat la semaine prochaine. Alors, on est quand même, quand on fait de la compétition, on est quand même obligé de se spécialiser. Après, si on veut faire de la vitesse, il y a des épreuves courtes, il y a des épreuves longues. C'est une autre forme de roller.
Ça reste de la vitesse, effectivement. Après, le fait de participer, Aureline disait tout à l'heure les 6 heures, c'est un format qui est pas mal parce que ça permet de caler le déplacement dans une seule journée. On se lève tout le matin, on va faire nos 6 heures et on revient un petit peu plus tard le soir. En revanche, par contre, il y en a pour tous les goûts. La personne qui veut découvrir s'inscrit dans une équipe de 5 et à ce moment-là, ça reste un petit effort, mais c'est accessible quand même. Et puis la personne qui veut faire des longues distances s'inscrit en solo. Et à ce moment-là, on est tout seul avec notre peine. On n'est pas tout seul sur la piste parce qu'il y a d'autres solos en général. C'est d'ailleurs une formule qui remporte un grand succès. Mais c'est un autre type d'effort, effectivement, qui se fait plus sur la durée.
Il y a des championnats de France, des championnats d'Europe, du monde, et avant tout régionaux puis départementaux, hein. Il faut gravir toute une série de
si on le souhaite, on peut. Alors effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure sur Caroline, on a des champions du monde.
Là, c'était le niveau. Hein. Très haut niveau. Hein.
Mais ça fait très longtemps en France qu'on a des champions d'Europe, des champions du monde. On entend peu parler parce que le.
Vous allez être au sport olympique, donc ça va faire.
Je pense que ça va aller mieux, mais ça reste le un peu comme le vélo d'ailleurs. Souvent fait le parallèle. Le roller, ça reste en pratique sportive confidentielle. Il y a 50 000 licenciés en France.
Le vélo, c'est un sport bien connu quand même en France.
Oui, tout à fait.
Oui. Français, le Tour de France, c'est troisième événement mondial après l'Euro, après les Jeux Olympiques et le Mondial de foot. Hein. C'est quand même l'événement sportif numéro un quand il n'y a pas de Mondial ou bien de Jeux Olympiques.
Le parallèle que je fais, c'est simplement qu'il y a pas mal de gens qui pratiquent le roller et le vélo sans forcément être licenciés et faire en tant que pratique sportive.
Oui,
en fait, c'est
vrai,
ça. Voilà.
C'est vrai.
Après, effectivement, le vélo est a l'avantage d'être techniquement beaucoup plus accessible.
Oui.
Les chutes en vélo, en général, c'est adulte, c'est plutôt derrière nous, et c'est rare qu'on chute en vélo. Alors qu'en roller, c'est pas forcément.
Oui, c'est sûr.
C'est pas forcément absent.
Justement, un parallèle avec le vélo, comment ça se passe avec les automobilistes ? Vous avez les mêmes problèmes, les mêmes difficultés ? Parce que quand on prend la route, il doit falloir aussi donc respecter le code de la route. Des fois, ça va être un peu limite. Hein.
On est alors vis-à-vis du code de la route, c'est le roller est mal positionné parce qu'on est considéré comme des piétons.
Eh oui.
Donc on est censé, en dehors des agglomérations, rouler face aux voitures, comme un piéton en fait. Sauf si on est par un groupe de 10, etc. Donc c'est jamais ce qu'on fait, bien évidemment. Donc on comme les vélos, on utilise la voie de droite. En revanche, je trouve que, alors déjà dans la région, je trouve qu'il y a un grand respect quand même des automobilistes, plus que dans d'autres régions. Alors il y a toujours des exceptions à la règle, forcément. Mais il y a plutôt un grand respect pour les gens qui pratiquent du sport et qui croisent une route.
Ouais, vous croisez des joggeurs, des cyclistes, des cavaliers même.
Des cyclistes. Alors des cavaliers plus rarement parce qu'ils ont quand même des allées particulières. Nous, il faut du bitume pour rouler. Donc voilà.
Ah, dans les chemins des fois comme ça.
Non, je vous déconseille. Non, c'est une problématique. Ouais. En revanche, on fait plus peur qu'un vélo. Parce que, comme on patine, forcément, il y a un pied qui... Déjà, on est un petit peu plus à gauche qu'un vélo, et on a les pieds qui se baladent de droite à gauche. Et du coup, la voiture qui nous double nous rase quasiment jamais.
Ah oui.
Par rapport à un vélo. Mm-hmm. Parce qu'on fait plus peur, quoi. Mm-hmm. Puis éventuellement, on bouge les bras, ça fait peur.
Ouais, vous vous mettez vraiment en file indienne, là, quand même.
Ah c'est oui, pas on, vélo,
on peut se mettre à deux ou trois de front.
On peut pas.
Là, vous vous mettez au moins en file indienne. Donc, déjà, pour un automobiliste, c'est déjà plus facile.
Là-dessus, oui, quand on part en rando, en race campagne, on est tous en file indienne et on essaie de rester groupés. Et voilà, c'est la règle. Mm-hmm. On disperse pas le peloton, quoi.
Oui. Vous allez refaire les 24 heures du Mans ?
Oui.
Cette année, alors que là, dites-nous tout, comment ça va se préparer?
Alors, cette année, on va voir. Cette année, on est plus parti sur les 24 heures de Quiberon. Ouais. Donc là, en fait, c'est sur la presqu'île, on est sur le front de mer. C'est juste un cadre.
Il y aura de la pluie.
Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des côtes, il y a des descentes, mais c'est juste génial là-bas. Ouais. Donc on va plus partir sur cette compétition cette année et je pense qu'il y en aura quelques-uns du club qui vont faire le Mans cette année aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on essaye d'alterner parce que les compétitions sont à 15 jours d'intervalle et c'est vrai que faire 2-24 heures dans le mois, c'est juste épuisant. Donc on n'en choisit qu'un seul pour le club, officiellement organisé par le club. Et, et du coup, voilà, on attend impatience Quiberon parce qu'on n'est pas sur un circuit fermé, on est vraiment sur la route. La nuit, c'est nuit noire, donc on est éclairé à la frontale et sur le bord de mer, quoi. Donc,
quelle sensation on a ? On se dit, je suis quand même un privilégié de vivre des moments comme ça. Est-ce qu'il comme ça ? Parce que Quiberon, en frontale, près de la mer, ça doit être quand même.
C'est magique.
Ouais, magique.
Ouais. Hein. On a de la chance, quoi.
Ouais, on a le temps quand même d'apprécier tout ça.
Ah oui, carrément, oui. Surtout dans la montée.
Oui. Bah oui, ça aide.
Quand on a le vent de face.
Ça aide. Ces 24 heures, ça se fait comment ? Ça s'organise comment ? Vous faites des relais tous les combien ? Toutes les 20 minutes ? Toutes les heures ?
Tous les tours. C'est des tours qui font 3-4 km. Voilà.
Vous êtes combien par équipe au total ?
On est entre... Alors, à Quiberon, on est 7.
7 par équipe, donc 7 qui toutes... Voilà. Donc ça veut dire que toutes les 7 minutes, vous repartez, quoi. Les 7 tours, pardon.
Tous les 10 minutes.
Ouais, tous les 7 tours, quoi.
Voilà. Mmh. Tous les 7 tours, on repart. Donc généralement, on a une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure de pause entre chaque tour. Et chaque tour, on le fait à fond, quoi.
On essaye d'arriver premier ou première, quoi. On marque pas des points, c'est pas des sprints, c'est pas où on marque
non.
des
points. En fait, on a des puces qui comptent les tours à chaque fois. Et à la fin des 24 heures, on compte celui les équipes qui ont fait le plus de tours, quoi.
Ouais. Et c'est pareil donc pour le Mans, c'est la même formule.
C'est exactement pareil. Que pour les 6 heures, pour toutes les compétitions où c'est un temps. Après, il y a des compétitions qui sont comme des marathons, où là, justement, c'est le premier arrivé qui compte. Mmh. Et donc, il y a plusieurs tours qui sont faits, parce que c'est très dur d'avoir des circuits qui font 42 km. Mmh. Mais voilà, on arrive à faire des compétitions qui font une dizaine de tours. Et là, pour le coup, c'est le premier arrivé qui gagne, quoi.
Donc c'est effectivement c'est quand même difficile hein. on doit être complètement cuit parce que il y a aussi le sommeil, il faut lutter contre le sommeil.
Voilà, alors
ça aussi il faut rester
entre les tours on essaye de faire des petites siestes hein. on peut partir sur des 20 minutes
si on part tous les tours, ça doit être difficile quand même de faire des siestes de pouvoir.
Laurent est très bien calé sur ce domaine parce que lui il fait des solos et des duos sur les 24 heures du Mans, donc il va vous parler de ça.
Le Mans effectivement c'est une On apprend à dormir par quart d'heure.
Oui, pareil. Les marins nous
voilà.
Ont dit ça.
Alors les marins, ils dorment à la minute.
Ouais,
hein,
ouais, ouais, ils nous ont dit ça.
Mais effectivement, si, bon, je m'étais renseigné. Moi, j'avais préparé un solo il y a quelques années. Et cette question-là, du coup, lorsqu'on est en équipe, en général, sur la période de nuit, on se répartit, on fait deux groupes, et puis il y a un groupe globalement qui dort, qui arrive à dormir, on va dire une heure et demie, pendant que l'autre roule. Et puis après, ceux qui ont dormi, c'est à eux de souffrir un petit peu plus sur la piste pendant que les autres se reposent, etc. En solo, du coup, on peut pas faire ça. On est face à notre montée, à nos parcours. Mm-hmm. Et lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur les cycles de sommeil, on s'aperçoit que le sommeil profond apparaît au bout de 20 minutes. Donc l'objectif est de dormir moins de 20 minutes pour éviter de tomber dans le sommeil profond, etc. Mais alors, bizarrement, moi, je m'étais entraîné à ça en préparation, quoi. Mais on y arrive, psychologiquement. Ouais, on fait une sieste, c'est le principe de la sieste, en fait. Mmh. On s'endort, on se dit, tiens, dans un quart d'heure, je me réveille, et ça marche. Alors, ça marche pas tout le temps pendant les 24 heures du mois. Forcément, il faut un petit staff qui vienne nous réveiller de temps en temps, parce qu'au bout d'un moment, on se réveille pas tout seul, forcément.
Voilà.
Mais voilà, donc ça se passe comme ça. Mais il y a aussi, c'est un autre objectif personnel, des coureurs qui font ça sans s'arrêter, faire un effort. Faire un effort pendant 24 heures, c'est possible. Mmh. S'endormir, c'est possible. Après, effectivement, l'intensité de l'effort n'est pas le même. Faut savoir doser, etc. C'est toute une savante alchimie, mais c'est possible. Voilà.
On pense à quoi quand on fait comme ça que 24 heures non-stop? Parce que c'est une question que j'ai souvent posée à des coureurs à pied, hein, notamment Laurent Boudineau, hein, qu'on connaît bien simultanément. Donc, on pense à quoi? On arrive à se concentrer sur quoi?
Alors, c'est divers et varié. Souvent, au début, on pense à la course. Vaut mieux, effectivement. Ouais. Et forcément, il y a des périodes. Alors déjà, on est en solo, mais souvent, plusieurs solos roulent ensemble. Mm-hmm. Donc souvent t'as pas discute aussi, parce que l'effort n'est pas forcément intense tout le temps. Faut s'alimenter, etc.
Faut pas oublier de s'alimenter, c'est important.
Surtout pas.
Et donc l'alimentation, c'est comme pour la course à pied et puis le vélo, c'est pareil. Oui.
Alors c'est souvent du liquide en fait, parce que c'est ce qu'on digère le mieux. Et puis faut s'alimenter et boire, c'est toujours pareil. Faut s'alimenter quand on n'a pas faim et boire quand on n'a pas soif, sinon c'est foutu après. Si on commence à manger lorsqu'on a...
Il y a la fringale,
c'est trop tard. C'est trop tard parce que c'est un effort physique quand même, et on dépense plus d'énergie qu'on peut en ingurgiter, en fait. Donc il faut surtout penser à ça et s'alimenter régulièrement. Mmh. Donc pendant le tour, on s'alimente, on discute un petit peu avec son collègue, on change la place dans le peloton, souvent on roule dans le peloton, et forcément celui qui est derrière, il fait moins d'efforts que celui qui est devant. Mmh. Donc on rend la politesse au tour d'après, etc. Quoi. Mmh. Donc on discute avec nos confrères, nos collègues. Mmh. Souvent on emporte de la musique aussi. Un petit MP3, ça permet de passer le temps.
Phrase, hein, qui font du
absolument.
Voilà, musique, là, voilà.
Alors sur la route, c'est pas. Moi je le fais rarement.
Ouais, parce qu'on n'entend pas les.
Et voilà. D'un point de vue sécurité, c'est pas forcément super. Bon, sur un circuit les 6 heures solo, etc., ça gêne pas. Le circuit est fermé, il est là pour ça, il est là pour nous, en fait, la durée de la course. Donc il n'y a pas de danger.
Et quand on est un peu moins bien, on arrive à gérer cette souffrance.
Comme dans tous les sports, il faut effectivement à un moment donné gérer la souffrance, dépasser un peu. C'est là tout l'intérêt du sport aussi, hein, c'est de se dépasser et de se dire tiens, on l'a fait.
Auréline, elle préfère par équipe, elle veut pas faire solo un jour?
Ah si, j'en ai déjà fait.
Ah bon, alors.
Pas en 24 heures, mais.
Il y a les mêmes sensations, mais les 24 heures justement un jour.
C'est un format qui me plaît un petit peu plus que le solo. Laurent m'invite à faire
Je disais, chercher un partenaire pour faire un duo. Je m'amuse plus aux 24 heures en duo qu'en solo. Mmh. En solo, c'est une vraie souffrance. Mmh. Et puis la course, c'est bien de faire tirer sur la ficelle du corps, mais En duo, par contre, on reste dans une course, dans des sprints. Mmh. On arrive à faire des pointes de vitesse. Enfin, je me suis fait plus plaisir en duo aux 24 heures qu'en solo.
D'accord. Et puis ça peut être mix. On n'est pas obligé d'avoir un duo homme, un duo femme.
Du tout.
C'est des compétitions qui sont mixtes. Hein.
Tout à fait.
Est-ce que les sponsors sont importants? Est-ce qu'on voit des partenaires venir sur vos équipements? Ça se fait dans des clubs?
Il y en a, oui. Ouais. On en a.
Ouais.
Et la fédération en a aussi, donc.
C'est toléré, donc il n'y a pas de problème.
Ah oui, justement. Au contraire. Souvent, justement, dans les compétitions qui sont pas trop trop officiels, type les 6 heures, le challenge du centre, etc. Ouais. Justement, en fait, le dernier tour, ils nous disent, une seule puce par équipe, et ouais. l'équipe entière peut faire le dernier tour tous ensemble, histoire de montrer vraiment une équipe sur le circuit, et on emmène les banderoles des sponsors qui nous financent justement ces compétitions. Quoi. Du coup, ça leur fait un petit peu de promotion. Quoi.
Et vous avez des supporters qui vous encouragent au bord des routes, là?
Oui, les gens du village.
Quand vous faites comme ça,
ça dépend des épreuves.
Pour 6 heures, pour 24 heures ou voilà.
ça dépend des épreuves. Ouais. L'intérêt aussi des épreuves de 6 heures, là, c'est... certaines se passent dans les villages eux-mêmes, où c'est la fête du village, en fait, type d'événement. Et du coup, c'est sympa, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui ne mettront peut-être jamais de roller, mais qui viennent voir le spectacle, la compétition. Forcément, il y en a qui roulent beaucoup plus vite que nous, qui ont beaucoup plus de techniques.
C'est joli à voir.
Ouais.
Et puis la nuit, comment on gère ça? Ça doit être quand même assez particulier, quoi.
Sur des compétitions de 24 heures la nuit. Alors, sur les 24 heures du Mans, c'est là où c'est magique, on roule sur le circuit, sur le circuit des 24 heures, mythique. Le circuit moto, le fameux mythique Bugatti. Donc, avec un asphalte irréprochable et un éclairage la nuit, donc là, on se fait pas peur, et au contraire, on fait du plaisir. Et ce qui est magique, c'est le lever du soleil. Le lever du soleil en haut de la côte d'un lobe, la fameuse montée là. Qui monte, hein, on s'en rend pas compte en voiture, en moto, mais en roller, on s'en rend bien compte, en vélo aussi, et en course à pied aussi.
Les 24 heures de vélo aussi au Mans, et ils disent que ça monte,
on vous confirme.
Allez, très bien, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale, et puis on finira déjà cette émission, vous voyez, bien chargée sur le roller ce matin.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Le Marquis de Pombal, de rue Louis Leblanc à Rambouillet, vous propose sa formule du lundi midi au vendredi midi à 15,50€. Entrée à volonté, plat du jour, dessert à volonté, un quart de boisson. Le Marquis de Pombal, de rue Louis Leblanc à Rambouillet. Téléphone 01 34 83 02 45.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial, avec un espace enfant, pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours. Et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez votre devis gratuit au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle? Avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnoult en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Évry-Pontin.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça, tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Voilà, alors sachez que le 8 janvier prochain, il y aura le marathon Technoglobe, hein, de Sarnay-la-Ville. On vous y verra peut-être. Donc pour conclure cette émission consacrée entièrement ce matin au roller, un petit mot.
Eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir, oui. le mercredi à 20h, comme je disais, au parking de Carrefour à côté de la station-service. Mm-hmm. Et on donne aussi rendez-vous au gymnase le dimanche matin en période hivernale à partir de fin novembre. Comme ça, on évite d'avoir un peu trop froid. On va faire des petites initiations dans le gymnase à l'intérieur et avec un petit peu de slalom.
Très bien, merci Auréline, merci donc Laurent d'être venu nous parler de votre section. N'hésitez pas à nous contacter pour chaque nouvelle. On va remercier Victor pour l'émission de ce matin et on s'excuse encore pour ne pas pu avoir eu le direct du trail de Mani les Hameaux. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. La semaine prochaine, même heure, même chaîne, 10h-11h, on aura la section vélo de Poigny-Rambouillet. Bon dimanche à toutes et à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale.